bonne question pour vous. Est-ce qu'on peut blâmer Dieu quand on ne comprend pas ce qu'il fait? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de pouvoir entendre prêcher la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, alors qu'on va passer aux bénédictions des enfants de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Voici les questions qu'on va poser à ce beau livre de la Bible. Que signifie le mot « Apocalypse » ? Quand est-ce que les élus de Dieu vont chanter des louanges avec les anges ? Que signifie le mot « Alléluia » ? Est-il normal pour un chrétien de soupirer de temps en temps ? Est-ce qu'on peut blâmer Dieu quand on ne comprend pas ce qu'il fait? Dieu utilise-t-il parfois le diable pour accomplir son plan? Les croyants peuvent-ils se venger quand ils sont persécutés? Est-ce qu'un couple peut connaître le véritable sens de l'amour sans être marié et chrétien? De quoi le mariage est-il une image pour les croyants? Pourquoi les croyants paraîtront-ils en jugement devant Jésus-Christ? Demeurez à l'écoute, nos réponses s'en viennent. Notre Dieu merveilleux va nous enseigner sa parole par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on va entendre ta parole aujourd'hui. Aide-nous à le réaliser, qu'elle puisse entrer profondément dans nos cœurs et donne-nous cet amour, ce zèle pour la pratiquer dans chacune de nos vies. Touche nos cœurs aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous le savons déjà, à l'extérieur de l'Église, le mot « Apocalypse » est synonyme de catastrophe et de chaos. Or, l'Église a conservé le véritable sens original du mot, car l'Apocalypse est d'abord et avant tout une révélation divine. Il est opportun de le rappeler à ce point de notre récit, car les derniers chapitres nous ont peut-être donné à penser que le monde avait raison. La grande tribulation est effectivement remplie de malheurs et de douleurs. Or, le chapitre 19 marque une étape de transition saisissante, en nous décrivant l'événement le plus grandiose et magnifique de toute l'histoire de l'humanité, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Il revient pour établir son royaume sur la terre. Ce chapitre est le point entre la période sombre de la grande tribulation et le royaume du millénium. Deux magnifiques événements de première importance sont décrits ici. Le premier est le repas des noces de l'agneau et le second est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Ce chapitre commence avec une chorale entonnant l'Alléluia céleste et se termine avec l'ouverture de l'enfer. Nous assisterons aussi à deux grands festins. Le premier se déroule dans le ciel, au repas des noces de l'agneau. Le deuxième nous retourne sur la terre lorsque les oiseaux carnassiers sont invités à se régaler du cadavre des rois et généraux après la guerre d'Armageddon. Les quatre Alléluia. Le chapitre 19 lève le rideau sur une glorieuse chorale céleste. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 19, verset 1. Après cela, « J'entendis dans le ciel, comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !»« Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu !» Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises l'expression « après cela » au cours de notre lecture. On se rappelle particulièrement le verset 19 du premier chapitre, où l'apôtre Jean divise pour nous les parties de ce livre. Elle signifie littéralement les choses qui s'accompliront après ces choses. Après quelle chose? Après les choses de l'Église. Le chapitre 4 commence lui aussi par cette expression, et à partir de là, nous avons assisté à une progression logique et chronologique. Maintenant, l'auteur nous décrit l'événement principal suivant la grande tribulation. Il s'agit du retour physique de Jésus-Christ sur la terre. il est le seul être capable de mettre fin à la grande tribulation. Après cela, cette expression ne sera plus utilisée. L'apôtre Jean entend dans le ciel la voix forte d'une foule nombreuse. Dans les scènes d'adoration des chapitres 5 à 7, nous avons vu les anciens, l'Église et la grande assemblée des anges et des intelligences créer, glorifier Dieu. Ici, un grand nombre d'élus venant de la grande tribulation s'ajoute à ce nombre déjà considérable, et ils se mettent tous à chanter. Le dernier groupe a probablement vécu dans la crainte et le secret pendant toute sa vie terrestre à cause des persécutions de la bête. Mais ici, il peut librement exprimer son cœur et il chante à plein poumon. Peut-être pour la première fois, il peut laisser libre cours à sa joie en utilisant ce mot de louange de l'Ancien Testament, « Alléluia ». Nous pouvons lire ce mot 4 fois dans les 6 premiers versets. Dans tout le Nouveau Testament, on trouve ce mot seulement ici. Il est réservé pour cette grande occasion de la victoire finale. Par contre, dans l'Ancien Testament, on trouve le mot hébreu « Alléluia » en plusieurs endroits et surtout dans les psaumes 146 à 150. Il signifie « Louer l'Éternel ». En fait, le psaume 150 est à lui seul un puissant crescendo de louange. « Alléluia » est une note de louange tout à fait appropriée à ce point de notre récit. La grande tribulation fait maintenant partie de l'histoire et Jésus revient. L'Église se prépare à être unie à son Sauveur et Seigneur par les liens du mariage. « Alléluia ! J'avoue qu'en écrivant ces lignes, mon cerveau ne pouvait s'empêcher de me jouer le glorieux Alléluia à la fin du Messie de Handel. » Cette musique répond en écho à ce verset béni. Je sais bien que cette pièce ne peut se comparer à la gloire de la grande chorale céleste, mais la sensation est quand même délicieuse. Le psaume 104, verset 35, semble annoncer ce passage. Je vous en fais la lecture. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia, car le Seigneur revient juger le monde et les méchants seront enlevés de la terre pour aller en leur propre lieu. Alléluia exprime la joie à la pensée que la phase finale du salut arrive bientôt. Les soupirs présents. L'apôtre Paul exprime cette pensée en termes plus articulés dans son épître adressée aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce grand jour viendra, et la terre sera libérée de l'esclavage du péché. En attendant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et nous soupirons tous. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas raconté une anecdote de J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. Lorsqu'il était jeune, il s'est construit une maison dans le sud de la Californie. Dans ses temps d'insouciance, il dévalait les marches de l'escalier sans même y penser. Mais au jour de sa vieillesse, atteint d'un cancer, chaque marche de ce même escalier représentait un calvaire. Il ne pouvait s'empêcher de soupirer. Dans ces tendres jeux dont les vieux amants ont le secret, sa femme lui disait d'arrêter de soupirer ainsi. Et lui, il répondait que soupirer est biblique. Nous soupirons nous-mêmes dans nos corps. Parfois, notre Dieu de compassion soupire avec nous, comme nous le voyons un peu plus loin au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Toujours Romains chapitre 8, verset 26. Oui, il nous arrive de soupirer ici-bas, mais un jour, ces soupirs se transformeront en allégresse et en alléluia. Car Dieu nous le promet par la plume de l'apôtre Jean. Un Dieu juste dans ses jugements. Apocalypse chapitre 19, versets 2 à 4. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, « Amen !»« Alléluia !» Il est intéressant de noter qu'à la suite de tous ces jugements de Dieu, les occupants des cieux, qui ont une connaissance plus étendue et plus parfaite que vous et moi, sont en mesure de dire que ces jugements sont véritables et justes. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte que Dieu est trop bon pour envoyer des hommes en enfer, dites-vous que Dieu retient chacune de ces idées que les gens se font de lui. Il s'est clairement décrit tel qu'il est dans sa parole, qui est la Bible. Et votre tâche est de témoigner de la vérité avec douceur et amour, même si ce n'est pas toujours facile. Et si vous-même vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, c'est vous, et pas Dieu, qui est dans l'erreur. Pour ma part, je n'ai jamais prétendu comprendre Dieu dans toutes ses voies. Or, lorsque je ne comprends pas, je blâme ma pensée humaine limitée, et non Dieu. Ici, Dieu était tout à fait dans son droit de juger la grande prostituée. Lorsque nous lisons le compte-rendu du jugement de Dieu sur la fausse Église qui a subi la grande tribulation, nous voyons que les rois de la terre et la bête ont détruit la prostituée. Or, ici, on nous dit que c'est Dieu qui l'a jugée. Et il s'est servi de ses ennemis pour exécuter son jugement. Dieu utilise différents instruments, et il utilisera même le diable pour accomplir son plan. C'est pourquoi on peut entendre dans le ciel que ses jugements sont véritables et justes. L'Église apostate méritait sa destruction, car elle avait martyrisé plusieurs des enfants de Dieu. Poursuivons notre lecture du verset. « Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Vous voyez, les croyants n'ont pas le droit de se venger eux-mêmes de leurs persécuteurs. Malheureusement, certains d'entre nous tentent parfois de le faire, et à partir de ce moment, notre marche de foi est compromise. Écoutez bien Romains chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissons à Dieu le soin de nous venger lorsque ses ennemis s'opposent à sa volonté, lorsque nous sommes persécutés. Et plusieurs parmi nous l'ont été. Notre réaction naturelle est de répondre coup pour coup. Notre vieille nature attend ce genre d'occasion pour reprendre le contrôle. Mais nous devons remettre notre douleur entre les mains de Dieu. Il ne laissera pas indéfiniment aller le coupable sans lui remettre son juste salaire. La vengeance lui appartient. Son jugement tombera sur l'Église apostate, les faux enseignants et les loups ravisseurs. Les 24 vieillards chantent « Alléluia » pour la première fois. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, je pense que ces vieillards représentent la véritable Église, rendue au ciel depuis son enlèvement. Le mot « Église » signifie « appelé en dehors ». Ici-bas sur terre, les chrétiens sont appelés à vivre en dehors du monde. Et après l'enlèvement, cette Église deviendra l'épouse de Jésus-Christ. Revenons au texte. Poursuivons notre lecture. Apocalypse, chapitre 19, versets 5 et 6. « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu !» On remarque que cet appel à la louange vient directement du trône de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à prendre le contrôle de ce monde. Nous entendons l'immense chorale chanter « Alléluia » au Seigneur. Une autre ancienne prophétie s'accomplira alors. Un jour, Dieu a promis au roi David qu'un de ses descendants régnerait pour toujours sur son trône. Lisons le compte-rendu d'une alliance entre Dieu et David dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Mais avant le retour de Jésus-Christ sur la terre, une noce doit être célébrée, et tous les croyants feront partie de cet heureux événement. L'épouse de l'agneau est le festin de noces. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cette expérience sera sans doute la plus extraordinaire et passionnante vécue de mémoire du croyant. L'Église, c'est-à-dire le corps de croyants de la Pentecôte à l'enlèvement, sera alors présenté à Jésus-Christ afin de lui être donné en mariage. Le mariage a lieu dans les cieux, et la scène est céleste du début à la fin. Au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous enseigne sur la relation entre l'époux et sa femme. En passant, il parle d'individus remplis du Saint-Esprit et de la relation de couple qui en résulte. Vous ne pouvez pas avoir un foyer chrétien sans un époux rempli de l'Esprit et une épouse remplie de l'Esprit. Je ne pense pas qu'un couple puisse connaître le véritable sens de l'amour à moins d'être à la fois marié et chrétien. Notez bien les instructions de l'apôtre Paul au verset 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quelle description glorieuse de la relation de Jésus-Christ avec son épouse, qu'est l'Église. Notre société est saturée de sexualité, mais que connaît-elle de cet amour? La société de consommation ultra-rapide s'est introduite dans les relations de couple. Pour consommer une union, on n'attend plus le mariage. Lorsque le couple ne fonctionne plus, habituellement en moins de 2 ans, on passe à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'hommes et de femmes butinent d'un couple à l'autre, mais sans jamais connaître le véritable sens de l'amour. Et beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas non plus, j'en ai bien peur. Marie, vous rappelez-vous la première fois où vos yeux se sont posés sur votre femme? Vous rappelez-vous votre union, le jour de votre mariage, lorsque vous avez commencé à vous appartenir l'un à l'autre? Car comme l'apôtre Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. N'est-ce pas là le plus beau jour de votre vie? Femme, vous rappelez-vous lorsque vos yeux se sont posés sur ce garçon qui est devenu votre mari, en pensant à quel point il vous paraissait séduisant? Et quand il vous a pris dans ses bras, n'était-ce pas une expérience passionnante? Mais tout cela n'est rien comparé aux noces de l'agneau, lorsque Jésus-Christ prendra son Église pour épouse, sainte et irréprochable. Jeune homme, jeune femme, si vous vous aimez vraiment, gardez-vous pur et sans tache pour le mariage. Que Dieu ait pitié des maris et des épouses de seconde main. Pourquoi se contenter d'un modèle usagé? Pourquoi vous offrir comme un modèle de démonstration? N'est-ce pas de loin préférable de découvrir à deux les secrets de l'intimité? La robe de mariée. Revenons à notre passage, qui nous dit « Car les noces de l'agneau sont venues ». Le mariage est une image merveilleuse de l'union entre Jésus-Christ et son Église. l'épouse, occupe une position unique dans sa relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a aimé son Église au point de se livrer pour elle et de souffrir la croix pour elle. Rappelons sa prière de l'Évangile selon Jean chapitre 17, versets 23 à 26. « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Quelle idée merveilleuse! Un jour, nous connaîtrons Jésus-Christ comme il nous a connus. Le verset 9 de notre passage nous décrit le trousseau de l'épouse. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La robe de mariée est faite des œuvres justes des saints de l'Église. Il est évidemment impossible de se tenir devant notre Seigneur sur la seule base de nos œuvres justes. Car, comme l'apôtre Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ par la foi, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais sa justice nous est imputée. Pourquoi alors l'apôtre Jean nous dit-il que la robe de mariée est faite des œuvres justes des saints? Voyez-vous, la robe de mariée ne sera portée qu'une seule fois, mais nous serons revêtus de la justice de Jésus-Christ pour l'éternité. Les croyants paraîtront en jugement devant Jésus-Christ, non pour être jugés pour leurs péchés, car ils auront été sauvés et purifiés par son sang. Ils paraîtront devant lui pour être récompensés. À travers les siècles, les croyants ont accumulé des œuvres justes afin de décorer cette robe de mariée. Au fait, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour décorer cette robe? Qu'avez-vous accompli pour la gloire de Dieu? Voyons cette autre citation, toujours de l'apôtre Paul, mais cette fois tirée de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 14. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. L'or, l'argent et les pierres précieuses seront préservés dans le feu, mais le bois, le foin et le chaume s'envoleront en fumée. Seuls les trois premiers décoreront la robe de mariée, car, comme l'annonce Éphésiens chapitre 2 verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, chers amis, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous ne sommes sauvés que par l'unique œuvre de salut que le Christ a accompli pour nous à la croix. Nous devons accepter cette œuvre par la foi, et ensuite, nous devenons aptes à exercer et à pratiquer la volonté de Dieu, et de faire ce qui lui est agréable. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 19, les versets 9 à 12. À vous tous, je vous souhaite une bonne et agréable lecture.
Merci, Régent. Tu as mentionné une chose qui est réellement importante pour nous, les croyants, aujourd'hui. Tu as dit que les croyants n'avaient pas le droit de se venger eux-mêmes de leurs persécuteurs et qu'on devait laisser à Dieu le soin de nous venger quand ses ennemis s'opposaient à sa volonté. Mes amis, je me rappelle, ça ne faisait pas très longtemps que j'avais accepté Jésus comme sauveur. Je parle d'il y a une trentaine d'années, alors ce n'est pas d'hier. Étant une nouvelle convertie, puis désirant que tout le monde connaisse ce grand amour de Dieu que je venais de découvrir, je ne perdais pas une seule occasion d'annoncer la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus seul. Mais en même temps, je n'avais pas encore acquis suffisamment de sagesse pour savoir quoi dire et quand le dire. Mais Dieu connaissait mon cœur et mon désir de le faire connaître au monde entier. Je me rappelle d'une fois, entre autres, où j'étais avec le frère d'un de mes musiciens qui venait de faire profession de foi. Toutefois, son frère n'était pas tout à fait aussi ouvert à la parole de Dieu. Et un jour, je l'ai laissé entrer chez moi avec sa canette de bière dans les mains. Il s'est assis dans mon salon et je me suis mise à lui dire combien Dieu l'aimait et combien Jésus avait souffert en allant jusqu'à la mort à la croix pour lui. Et quand je lui ai dit qu'il devait avouer qu'il était un pécheur, puisque nous le sommes tous, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il s'est soudain irrité contre moi. Il avait fini de boire sa bière et s'est mis à écraser la canette avec ses mains. Et par la manière dont il faisait ça, et par le regard dans son visage, il était bien clair que c'était moi qu'il voulait écraser, et je dirais même broyer. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je me suis mise à prier intérieurement. Je pourrais même dire que je me suis mise à crier à Dieu, « Seigneur, protège-moi !» Et je continuais à parler avec cet homme sans démontrer ma peur. Et ça n'a pas été très long avant qu'il se lève et qu'il décide de s'en aller. Et Dieu m'a protégée, j'en suis certaine. Et après ce jour-là, je n'ai jamais revu cet homme. Mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il lui pardonne sa méchanceté et qu'il le sauve. Qui sait, peut-être qu'un jour, je le verrai au ciel. Et toi, mon ami, es-tu de ceux qui réagissent avec colère quand quelqu'un te parle du Seigneur Jésus, de son amour pour toi? As-tu déjà pensé que c'est peut-être parce que tu as peur que tu réagis comme ça? Aussi, c'est assez dur sur l'orgueil d'avouer qu'on est un pécheur perdu. Je le sais parce que la première fois qu'on m'a parlé de ceci, j'ai coupé la conversation assez court. Mais Dieu est revenu à la charge un an plus tard, alors que mon orgueil avait été brisé par diverses épreuves. Mais toi, mon ami, ce n'est pas nécessaire que tu attendes à plus tard. D'ailleurs, tu ne sais même pas si tu vivras demain. Alors pourquoi ne pas répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Tu n'as qu'à croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est Dieu lui-même et qu'il s'est fait homme, qu'il s'est laissé crucifier, mettre à mort, dans le but de payer la dette de tes péchés. As-tu réalisé que tu étais un pécheur? Paul nous dit dans son épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais mon ami, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ta condamnation sur lui. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle. Alors repens-toi et reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.